Le confinement, lorsqu'il nous a été annoncé comme étant obligatoire, nous a en partie surpris. Assez rapidement, nous nous sommes préoccupés d'échéances. Jusqu'à quand devons-nous ne plus aller travailler? Jusqu'à quand ne devons-nous plus revoir ceux que nous avons l'habitude de rencontrer? Collègues, amis, voisins, évidemment famille. Cette date de fin de confinement qui est restée floue nous a inconsciemment poussé à nous installer progressivement dans une sphère strictement privée, à tenir et à vivre uniquement avec cette sphère privée. Les premières paroles ont bien souvent été « on va profiter de notre couple, on va profiter de nos enfants ». Certains ont même réfléchi aux membres privilégiés avec qui ils souhaitaient se confiner. Ex-conjoint, petite amie, belle famille, enfin, on a pu réfléchir à ça un petit peu en avant. Donc au départ, nous avons accueilli facilement le repli sur la sphère privée, puisque parfois nous avons même cherché librement avec qui nous allions rester. Malheureusement, vous avez sans doute entendu par les médias que ce repli sur la sphère privée a largement déclenché au niveau national des violences conjugales et familiales. Ce soir, cette réalité ne sera pas abordée, je tenais à le préciser. Cela fait quelques années que j'ai investi beaucoup sur les violences, enfin, contre les violences conjugales et aussi celles qui touchent les enfants. Mais même si mon cabinet est resté ouvert et investi, comme pour beaucoup de professionnels, beaucoup cet accompagnement, je pense que c'est une problématique qui est tellement large qu'elle mériterait une soirée à elle toute seule. Donc on n'en parlera pas ce soir. Peut-être que vous attendiez qu'on en dise un mot, mais j'ai choisi de ne pas le faire. Ce soir, nous souhaitons avec Christelle vous proposer un temps de réflexion sur les inconforts psychologiques par lesquels nous sommes tous passés. Même si nous avons la chance de ne pas être concernés par les violences privées, heureusement, le but est de comprendre que les moments pénibles, voire éprouvants, que nous avons connus, nous ne devons pas les banaliser. Peut-être qu'ils pourront être adoucis par la foi si nous sommes croyants, puisque nous sommes dans un lieu croyant, paroissial. Peut-être qu'ils pourront être adoucis par la foi, mais ils sont, je crois, avant tout, l'occasion nécessaire de faire attention à nous humainement. Ces moments sensibles ou éprouvants que je vais évoquer ce soir, il n'y en a que 5, dans lesquels vous vous retrouverez sans doute, nous devons leur donner un peu de notre attention pour qu'ils nous rendent service, pour qu'ils nous permettent de comprendre nos difficultés personnelles et humaines afin que nous soyons un petit peu plus attentifs à nous-mêmes, que nous nous préoccupions d'y trouver des solutions par respect pour nous-mêmes, qu'il y ait ou non un prochain confinement. Dans cette soirée que nous proposons avec Christelle, je pense qu'elle est vraiment à vivre comme un temps de respect et de considération pour soi. J'ai donc choisi 5 expériences que nous avons vécues. Il y en a d'autres, mais ces 5-là ont causé bien souvent beaucoup d'anxiété et elles étaient aussi imprévisibles. C'est celles que l'on n'aurait pas imaginé vivre parce que nos habitudes d'avant le confinement n'étaient pas du tout les mêmes. La première, c'est la difficulté à ressentir la proximité sans la présence des autres. Avant le confinement et depuis des années, nous sommes tous habitués à communiquer avec les gens que nous aimons à distance. Le téléphone, les SMS, les messages par mail, je pense qu'on est tous un petit peu rodés à ça. Donc cela n'aurait absolument pas dû nous poser de problème de continuer comme ça pendant le confinement. Vos enfants, puisque je vois qu'il y a des gens qui sont d'âge mature, vos enfants, s'ils sont à Paris ou ailleurs, vous avez de toute façon depuis longtemps l'occasion de communiquer avec eux par téléphone, aussi régulièrement que possible. Or, ils vous ont manqué encore plus que d'habitude pendant ce confinement. Pourquoi? Des exemples comme cela, on peut en trouver beaucoup. C'est le grand-parent qui est en EHPAD. Bien sûr, on n'a pas toujours le temps d'aller le voir en semaine. On y est habitué à ce manque de temps. Mais là, le fait d'avoir conscience d'en être empêché, ça nous a oppressés. On a pensé, et s'il décédait, sans l'avoir revu? Alors que d'habitude, on évite d'y penser profondément. En fait, qu'il peut décéder sans l'avoir revu, on évite d'y penser tout court. Mais là, pendant le confinement, on y a pensé. Pourquoi avoir été bien plus inquiet de cette absence de présence des autres que d'habitude? Après tout, nous savons tous que le lien de proximité affective avec les autres ne tient pas à leur présence, ne tient pas à leur présence dans la pièce. Nous sommes tous dans cette pièce ensemble ce soir, et nous ne sommes pas proches et nous n'avons pas de souvenirs ensemble, nous savons que la proximité est un lien invisible. Elle n'est pas liée obligatoirement à la présence des corps. Heureusement, donc normalement, cela ne devait pas nous poser de soucis de ne voir les gens et de ne pas les voir, de ne pas les voir en face de nous. Effectivement, le lien ne dépend pas de savoir si je peux toucher l'autre. Nous avons pourtant été très sensibles et éprouvés par le manque de la présence physique de ceux à qui l'on tient. Car au fond de nous, nous avons été insécurisés dans nos propres liens avec les autres pendant le confinement. Insécurisés, ça veut dire quoi? C'est une chose toute simple. C'est tout simplement que l'on a eu peur souvent de perdre le lien. Évidemment, la peur de perdre le lien ne ressemble pas toujours à la situation du grand-parent en EHPAD. On n'a pas spécialement eu peur que tous les gens éloignés décèdent, bien sûr que non. Mais par contre, on a eu peur d'être moins présent dans la vie des autres. On a ressenti aussi que l'on ne pouvait pas les rendre présents dans nos vies. On ne pouvait pas les faire venir dans notre vie quand on en avait besoin. Le fait d'avoir la possibilité, c'est-à-dire la liberté de venir dans notre vie, le fait d'avoir la possibilité de les voir ou de ne pas les voir, ça nous rassure. On peut maintenir notre présence dans leur vie à eux. Et on se rassure sur le fait que c'est peut-être réciproque. On est important aussi pour eux. Pendant le confinement, la réalité de ces liens, des liens avec ceux que l'on aime, n'a jamais été rompue réellement. Personne n'a perdu la mémoire pendant le confinement. Personne n'a oublié les autres. Nos places dans la vie des autres tiennent aux souvenirs ensemble, ce que l'on a vécu avec eux avant le confinement, ce que l'on représente pour eux. Mais par contre, on a eu peur que les autres ne se soucient plus assez de nous, du fait que chacun devait s'accrocher à la sphère privée immédiate. Alors on pouvait nous oublier, nous pouvions nous sentir seuls, nous qui étions à distance géographique. C'est bien cette peur que nous avons ressentie souvent, puisque même voir les autres en photo, ça n'a pas suffi. Même les appeler, ça n'a pas suffi. On peut évidemment se défendre et dire que l'on n'a pas du tout peur d'être oublié, ni moins important. Mais alors comment rendre compte de notre besoin de toucher l'autre, de lui faire un câlin quand on rencontre les petits-enfants, ou seulement de le voir dans la pièce sans le toucher? Pourquoi est-ce qu'on a eu besoin à ce point-là de ça? Moi, je vois que l'explication de l'insécurité. On va dire simplement que cela fait partie de la vie, de voir les autres. Sauf que si on était rassuré sur la profondeur des liens, c'est-à-dire sur le fait qu'on ne nous oublie pas et que l'on est important, on aurait sans doute pu s'en passer plus facilement de la présence. Ce qui est important maintenant, c'est de ne pas oublier ces deux choses-là. D'une part, on a eu peur de ne pas être assez important pour l'autre, que l'on aime, qui est à distance. Et on n'est pas assez sûr de vivre à deux notre attachement à l'autre. On a eu peur qu'il nous oublie. On n'est pas profondément sûr de la réciprocité. Quand on dit « tiens, on pourrait se voir, venez manger », on ramène l'autre à nous pour être sûr qu'on vit réciproquement l'importance que l'autre a pour nous. Et pendant le confinement, cette vérification de réciprocité, elle a tout simplement été interrompue. Ces deux peurs ne sont pas valables seulement pour les membres d'une famille à distance. Ces peurs sont tellement présentes parmi nous qu'elles ont touché aussi les collègues. Pourquoi je me remémore encore une personne à mon cabinet qui me dit « Mais pourquoi mes collègues ne m'appellent pas ?» Ah oui, c'est vrai, nous sommes tous confinés dans des univers personnels avec nos proches immédiats. Oui, c'est vrai, ceux avec qui on vit, mais quand même, j'avais l'impression de compter quand tous les jours je leur disais bonjour au travail. Et j'en ai besoin de cette importance. Et j'en suis finalement pas si sûre d'être importante. Il y a même des gens, et alors cette expérience-là, mais je l'ai entendue, mais je ne sais pas combien de fois. Il y a même des gens qui ont commencé à penser, pendant le confinement, partir plus vite en retraite. Beaucoup en ont parlé. Car ils ont été déçus par l'impression qu'ils ont ressentie. L'impression de moins compter pour les collègues, alors qu'en fait, ils ont toujours compté. Ils s'en sont rendus compte quand, en revenant quand ils sont revenus d'entreprise après le déconfinement. Cette crainte arrive très très vite dans nos têtes et je dirais, avec le confinement, elle est arrivée trop vite. Trop vite, nous avons eu peur de ne pas être importants. De même, les salariés qui sortaient d'un temps partiel pour un temps plein et qui se nourrissaient beaucoup de la bonne ambiance entre collègues pour tenir les contraintes professionnelles, ils ont failli, après le confinement, se mettre en arrêt, de peur de s'être trompés quant au fait que leurs collègues qui semblaient bien les aimer ne les avaient pas appelés. Puisque ces collègues ne m'ont pas appelé souvent, voire pas du tout, peut-être que finalement ce n'est pas la peine que je continue à les rejoindre. Dernier exemple, je vous le donne quand même, parce que c'est l'exemple d'un collègue psychologue, parce que je crois que tout le monde a été touché par cette crainte de ne pas être importante, les professionnels aussi. Donc un psychologue, c'est quand même quelqu'un qui est habitué à aller vers les autres et être rassuré par ce qu'il représente. Eh bien, ce psychologue qui vient à mon cabinet me dit « Toutes les personnes, puisqu'il travaille pour une équipe face au mur, toutes les personnes qui ont... » Il me dit, voilà, moi je fais partie de ces personnes qui ont transmis à leurs équipes, par mail, des informations professionnelles, habituelles. Mais ce qui m'interpelle, c'est que quand j'ai transmis ces informations par mail, ça a suffi à mes collègues. Ils ne m'ont pas rappelé. J'ai entendu, je transmets les informations par mail, ça leur suffit. Voilà. Pourtant, je pensais que quand on se parlait, on faisait plus que travailler. Ben là, on fait juste que notre travail à distance. Quand on se parle, en fait, on cherche à ressentir que l'on compte pour l'autre. On ne vit pas seul l'importance que l'autre a pour nous. On a l'impression que c'est réciproque. Ça, c'est quand on se parle avant le confinement. Le problème, c'est que finalement, avec le confinement, on s'est rendu compte que ces temps avec les autres ne nous avaient laissé aucune certitude sur notre importance. Et ça, c'est pas tout à fait normal. Donc je pense que grâce au confinement, nous pouvons peut-être essayer maintenant de faire attention à mieux installer en nous la sécurité des liens qui concernent ceux avec qui nous ne vivons pas. Nous pouvons faire attention à mieux les installer dans notre intériorité. C'est-à-dire quoi ? Il s'agit tout simplement de penser plus souvent au fait que nous sommes présents dans la vie de beaucoup de gens et se soutenir de cela, et pas simplement de chercher à voir les gens. On peut imaginer que ce qui vient d'être dit ne concerne que les gens qui ont été seuls pendant le confinement. S'il est vrai que nous avons été bien contents de ne pas être seuls, quand on a pu ne pas être seuls, nous avons parfois et même bien souvent vécu dans notre vie avec d'autres à domicile un autre problème. Un manque qui s'apparente un peu au précédent et qui a causé de l'agacement au sein des familles. C'est la seconde difficulté que j'ai évoquée avec vous. On a vécu des agacements répétitifs au sein des familles, à l'égard des proches avec qui on vivait. Enfants, conjoints, frères et sœurs, parents. Pourquoi ? On a tous entendu parler de cette vieille théorie, hein, qui est la théorie de l'espace vital, c'est-à-dire qu'on aurait besoin que les autres ne s'approchent pas trop près de nous, parce que, soi-disant, c'est une réalité, mais qu'une partie de notre cerveau, une partie très ancienne, serait très sensible quand quelqu'un s'approche trop souvent, trop près de nous. C'est une théorie psychologique. Mais quand on vit en couple ou en famille depuis longtemps, cette notion d'espace vital dont vous avez peut-être entendu parler, elle est normalement un peu usée. On est habitué à devoir supporter l'autre malgré notre fatigue, l'autre avec qui on vit. Or, pendant le confinement, cela a été très régulièrement difficile. Alors, c'est pas très, très agréable de l'entendre, les gens étaient gênés de le dire, de dire « je suis agacée ». Pendant le confinement. Cela a été très régulièrement difficile d'être non-stop ensemble. Et en plus, on était moins fatigués. Nous n'allons pas travailler, pas d'école, plus de trajets fastidieux. Alors comment cela nous est-il arrivé ? Je ne crois pas que ce soit l'explication de l'espace vital qui soit le vrai problème. Pendant le confinement, nous avons été privés d'une partie de ce que nous sommes et que nous ne pouvons pas nous donner à nous-mêmes et que nos proches ne peuvent pas nous donner. Cette partie de nous-mêmes, Nous avons l'habitude de la sous-estimer. Et là encore, le confinement nous rend service si nous voulons bien prendre en compte ce que nous avons ressenti. Cette partie de nous-mêmes, c'est tout ce que nos proches ne nous donnent pas. C'est tout ce que les autres à l'extérieur nous renvoient de nous. Avec ceux qui habitent au domicile, nous avons bien vu, nous voyons bien déjà souvent que nous sommes réduits à la personne qu'ils voient en nous. Les proches de notre domicile, ils nous ont renvoyé pendant le confinement ce qu'ils nous renvoient toujours, la même chose que d'habitude, c'est-à-dire leur demande. Mais cette fois-ci, il n'y avait plus que cela dans notre vie, puisqu'il n'y avait plus que la vie au domicile. Ceux avec qui nous sommes confinés pensent à nous comme un soutien, comme une ressource. Nous sommes la solution à plein d'attentes affectives. Mais ce que nous sommes en dehors de leurs attentes, ça n'existe plus pendant le confinement. Par exemple, si nous demandons à nos enfants qui nous sommes, y compris aux adolescents les plus matures, nous entendons la manière dont ils nous voient, à travers ce qu'ils attendent de nous et à travers ce qui les a déçus de nous. Ils ont du mal à nous renvoyer ce que nous pouvons être en dehors de leurs attentes. Avec nos conjoints, c'est pareil. À l'inverse, dans nos relations en dehors du domicile, quand on parle de nous, quand quelqu'un parle de nous, par exemple quand on nous dit qu'on est fiable, c'est en suggérant que l'on est quelqu'un au-delà des services, qu'on est fiable au-delà des services que l'on va rendre. Pareil dans notre travail. Quand dans le monde extérieur, au domicile, on dit de nous que nous sommes fiables, c'est que nous sommes imaginés, à tort ou à raison, comme une personne en soi fiable, et pas simplement un collègue ou un voisin gentil par obligation. Donc on l'a bien vu, dans la précédente difficulté que j'évoquais, à savoir le besoin de la présence, le trop fort besoin de présence qu'il y a eu pendant le confinement, dans cette première difficulté, on estime être apprécié professionnellement, on estime être apprécié, nous, dans ce que nous sommes, et pas simplement dans les tâches qui nous incombent ou que l'on remplit. Dans le lien social et professionnel, celui dont on a été privé pendant le confinement, nous allons chercher ce que les autres nous accordent comme valeur propre. Dans la vie quotidienne avec les proches, c'est pas ça du tout. Nous sentons que notre identité est réduite et ne vivre qu'avec celle-ci, ça peut devenir insupportable. Ça a été le cas. Au domicile, on ne parle plus de nous, on attend des choses de nous. Nous ne sommes plus envisagés au-delà de la sphère émotionnelle et de ce fait, nous avons pu nous sentir pendant le confinement un peu prisonniers des personnes privées avec qui nous avons vécu. Le confinement nous rend donc service en mettant à jour que nous avons besoin d'être identifiés comme une personne à part entière, comme un être humain qui vaut bien plus que la somme des satisfactions et des déceptions qu'il occasionne dans la maison. Donc je pense qu'il faut maintenant que nous fassions peut-être plus attention à ce que j'appelle moi l'altérité, c'est-à-dire ce qui fait une personne en totalité. Qui est notre conjoint, qui sont nos enfants, et que eux aussi fassent attention à nous. C'est-à-dire qu'ils ne nous considèrent pas simplement quand ils ont besoin, quand ils attendent quelque chose. Nous avons vu que, je pense que vraiment le confinement, il nous aide à penser ça clairement. On a besoin d'un peu plus. Nous avons vu que dans la rencontre physique avec les autres, nous avions peur d'être moins importants pour eux. Nous avons vu ensuite que le confinement, en nous obligeant à ne nous nourrir que de la sphère privée, inconsciemment nous a privé de la satisfaction de notre besoin d'exister au-delà des attentes des autres. Dans ces deux difficultés, le confinement, et je dirais merci au confinement, nous montre notre grand besoin des autres, qui sont en dehors du foyer. Besoin qui n'était pas peut-être assez conscient dans nos vies avant. Notre besoin des autres a pu aussi nous conduire à compenser ou à surinvestir ceux avec qui nous avons vécu quotidiennement. C'est ce qui nous amène à la troisième difficulté. J'essaye d'aller un petit peu vite parce que je vais laisser la parole à Christelle aussi. La troisième difficulté, c'est la peur du déconfinement, et on est encore dedans. Nous avons entendu, et peut-être l'avons-nous vécu, cette peur de reprendre la vie d'avant le confinement. Bien sûr, la première explication, c'est la peur du virus. Et si je l'attrapais? Mais il y a aussi autre chose. En amenant les personnes à en dire plus, on peut entendre « il faut repartir, il faut se remettre dans le bain, il faut y retourner ». On a pu aussi dire « ouf, on reprend le travail ». Mais en même temps, les personnes qui étaient contentes de le reprendre, elles abritaient elles aussi une crainte sourde, latente, comme une crainte que quelque chose soit difficile. Les gestes barrières, bien sûr, mais pas seulement. Comme si tout d'un coup on redécouvrait intuitivement les efforts constants que l'on doit faire pour s'adapter à la vie à l'extérieur. Les gestes barrières n'ont été que la représentation plus d'un effort que nous demande en permanence notre vie à l'extérieur du domicile. Avant le confinement, nous sentions consciemment notre difficulté seulement lors des retours de vacances. Il faut repartir après les vacances, il faut se remettre à travailler, c'est toujours un petit peu lourd. Il faut se remettre dans une vie sociale qui demande une adaptation variable. Mais avec le confinement, nous nous sommes rendus compte que ce ne sont pas les vacances, en fait, qui causent cet effort pour repartir vers les autres. Que nous vivions seuls ou en famille, pour peu que la vie au domicile se passe bien, inconsciemment, nous opérons une séparation entre la vie au domicile et la vie à l'extérieur. Vous l'avez certainement tous ressenti. Cet arrêt de nos efforts d'adaptation à l'extérieur, qui nous a été commandé, puisqu'on nous a dit « restez chez vous », on nous a obligés à rester chez nous, littéralement, cette suspension, cet arrêt de la vie à l'extérieur, nous a montré que sortir de chez nous ensuite nous semblait comme un redémarrage, comme si le temps de pause chez nous, pendant le confinement, nous avait évité bien des efforts qu'il fallait reprendre maintenant. Normalement, nous aurions dû être tout simplement contents. Contents de reprendre notre vie, de notre cours de la vie d'avant. Et bon nombre d'entre nous ont été ravis de reprendre leur travail, mais cependant avec la sensation que quelque chose n'allait pas être simple. D'ailleurs, nous en parlons encore. Des gestes barrières, cela semble compliqué à organiser, mais est-ce que c'est vraiment ça? Sans doute que non, puisque quand on voit la réalité de la mise en place des gestes barrières, c'est finalement assez simple. Alors pourquoi commençons-nous d'emblée par voir une montagne à gravir au moment de ressortir du repli du confinement? Beaucoup ont parlé d'étrangeté, étrangeté à ressortir dehors librement, alors que nous avons vécu difficilement avec une heure de sortie sur nos dérogations pendant des semaines. De même, il y a un sentiment d'étrangeté à recôtoyer librement les collègues dans les couloirs. Le rapprochement est libre, sans interdiction, mais on doit volontairement faire attention tout le temps. On nous rappelle consciemment qu'il faut faire des efforts tout le temps pour nous protéger les uns des autres. Pendant le confinement, on nous a obligés à ne plus nous adapter à rien. En somme, à ne plus nous faire violence. Les seules violences qui ont eu lieu dans le confinement, ce sont celles qu'on a pu vivre dans l'intime de nos domiciles. Mais à l'extérieur, plus d'efforts à faire. Même pendant les vacances, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on fait bien plus d'efforts pendant nos vacances pour s'adapter à l'environnement extérieur que l'on en a fait pendant le confinement. Nous exposer strictement le moins possible au monde extérieur, voilà la règle que nous avons suivie d'un seul coup. Et bien sûr qu'il fallait la suivre. Il n'y a pas eu d'erreur à la suivre, mais en la suivant, il y a eu une conséquence très importante. Nous avons arrêté tous nos automatismes d'acceptation des petites violences extérieures. Donc lors du déconfinement, nous avons eu la sensation d'une lourdeur, que nous devions tout refaire. Car cette exposition au monde, elle n'est pas si simple. Elle est synonyme d'efforts permanents pour s'adapter aux autres. Quelles sont ces petites micro-violences dont on n'avait pas conscience peut-être dans nos vies avant et que maintenant on ressent pleinement? C'est tout ce qui constitue en partie le monde professionnel ou les relations sociales. C'est accepter les jugements, petits ou grands, dont nous sommes l'objet en permanence. C'est vivre avec le risque d'échouer dans ce qui est attendu de nous, le risque de décevoir. C'est retrouver souvent l'obligation de faire nos missions par contrat professionnel, alors que nous ne les désirons pas toujours. Ce sont aussi les heures de présence qui ne respectent pas le fonctionnement de notre corps. C'est supporter un collègue, supporter un voisin, un commerçant, avec qui, on le sait, ça ne passera jamais. C'est un peu tous les jours faire attention, faire avec plutôt des situations incohérentes sur lesquelles on n'a aucun pouvoir. Tout ce que l'on doit faire ou supporter, parce que ce sont des passages obligatoires. Pendant le confinement, on a mis tout cela en pause. Et j'insiste, c'est le seul moment de notre vie peut-être où tout cela a été mis en pause. Si vous y réfléchissez, on n'a pas vécu ça avant. On n'a jamais mis à ce point-là la vie extérieure en pause. Le seul moment de notre vie où nous avons dit « le monde extérieur ne doit plus exister pour nous, hormis pour aller chercher la nourriture et nous soigner ». Le monde extérieur a donc été réduit durant quelques semaines à des besoins premiers, on peut même dire primitifs. Le déconfinement nous a fait ressentir la lourdeur de reprendre une sociabilité et une adaptabilité constante. Grâce à cette appréhension du déconfinement, nous savons maintenant qu'il faut que nous fassions attention à chercher les circonstances dans notre vie extérieure qui nous font ressentir qui l'on est. Des situations qui sont un petit peu comme le prolongement de nous, pour ne pas mémoriser simplement le monde extérieur comme une source d'effort. Pour que les relations extérieures me fassent bien moins violence, il faut peut-être maintenant que je pense à percevoir les relations à l'extérieur comme, par moments, des petits prolongements de ce que je suis, et pas simplement des choses à supporter. Christelle nous donnera peut-être des solutions pour cela. Depuis ce retour à la vie extérieure, le déconfinement dont on vient de parler, il y a deux micro-violences qui me semblent importantes parce qu'elles sont devenues beaucoup plus conscientes qu'avant, là aussi, chez beaucoup de personnes. On les vivait avant, il n'y a rien de nouveau, mais on n'en avait pas vraiment une lucidité, on ne le réalisait pas. Ce sont celles qui constituent les deux dernières difficultés dont je vais vous parler, à savoir la peur de mourir et les malaises causés par le masque. J'aborde donc cette quatrième difficulté qui est la peur de mourir. Nous sommes nombreux à penser régulièrement à notre santé. Voilà, c'est assez quotidien maintenant. Nos actes de prudence pour ne pas nous faire courir le moindre risque, hein, on regarde quand on traverse la route, etc. Nous faisons attention à nous-mêmes, nous nous soignons régulièrement. Mais la peur de mourir avec le confinement et le déconfinement a pris un visage très différent. Elle a pris le visage de l'autre. Et cette fois-ci, c'est beaucoup plus embêtant. Cette fois-ci, ce n'est pas une algue toxique qui se développe dans l'eau. Ce n'est pas la vache folle dans son pré, ce n'est pas le steak haché qu'on peut éviter de manger pour ne pas avoir de problème de maladie. Non, cette fois-ci, ce n'est pas dans notre assiette, ce n'est pas dans l'eau. C'est l'autre que l'on croise n'importe où et que l'on ne peut pas éviter. On peut même vivre avec quelqu'un qui a attrapé la Covid. C'est-à-dire, beaucoup de personnes, on le sait aujourd'hui avec les tests qui ont été faits, beaucoup de personnes ont eu la Covid et ne l'ont pas su. C'est-à-dire que ça a duré 2-3 jours avec des symptômes d'un bon coup de froid, et puis ça s'est passé. Donc aujourd'hui, on peut même vivre avec quelqu'un qui l'a eu, ne pas le savoir. Aujourd'hui, nous nous disons que le risque d'être atteint passe par tous ceux qui ne font pas ce qu'il faut pour se protéger. Et ça, c'est pas rien. Savoir quand le masque chirurgical, le masque qu'on utilise tous, là, en premier, le masque basique, ne protège pas celui qui le porte, mais il protège ceux autour de celui qui le porte. Je pense que vous le savez. Cela veut en dire long. Celui qui ne porte pas de masque, il est donc perçu comme celui qui ne pense pas aux autres, et par conséquent, qui les met en danger. Que la mort, passe par l'autre proche géographiquement, dans la rue, dans la boulangerie, ou un proche affectivement, les enfants ou les grands-parents, cela rend la mort présente d'une manière que l'on ne connaissait pas avant, qu'on ne connaissait plus. On sait que l'on peut mourir encore plus souvent du cancer que de la Covid. Je crois qu'on est beaucoup à le savoir maintenant. Mais le cancer est une anomalie, on se rassure avec ça. C'est le corps qui génère son propre dysfonctionnement, ou ce sont les environnements anormaux qui déclenchent un cancer, tabac, alcool, etc. On sait qu'on peut encore mourir de la grippe, oui, mais à condition d'être assez vulnérable. On sait que l'on peut mourir de plusieurs choses, mais les causes sont toujours relativement éloignées ou liées à un corps qui se dérègle. Des causes de danger éloignées, ce sont tout simplement des dangers face auxquels, entre nous et eux, on peut mettre une protection. Les vaccins, par exemple. Les vaccins ou l'attention à son corps. Pour le cancer, quand on comprend ce qui déclenche plusieurs cancers, on peut décider de prendre soin de son corps de différentes manières pour ne pas déclencher ce que les médecins appellent l'oxydation des cellules. Alors que par le confinement, on a vécu autre chose. On a vécu qu'il n'y avait rien à mettre entre soi et le virus. Que le risque de mort était juste dehors, dans le magasin, sur le siège que je touche quand je m'assois dans le bus, sur le stylo que je prends quand je remplis mon courrier recommandé à la poste. Il y a plusieurs années, lorsqu'un lépreux, je crois que ça aussi on l'a entendu, quand un lépreux arrivait à côté d'un village, il devait se signaler par une clochette. Mais aujourd'hui, on ne sait pas qui a le Covid, parce que tout le monde ne déclenche pas de symptômes alarmants. Donc la mort possible, elle est là au milieu de tout le monde. C'est comme ça qu'on est obligé de le penser. Bien sûr, on peut se rassurer en disant que on se fait confiance, que l'on reste optimiste, qu'on ne va pas s'affoler, et bien sûr, il ne faut pas s'affoler, mais il suffit que l'on croise une personne dans la rue qui n'a pas le masque, et écoutons bien ce que nous ressentons à l'intérieur de nous. Nous ressentons, quelque part, que cette personne n'est pas respectueuse des efforts de tous, qu'elle est égoïste, immature, donc, quelque part, on lui en veut un peu des risques qu'elle nous fait prendre. Notre rapport neutre à l'autre, neutre ça veut dire on se croise, on ne se connaît pas, il ne se passe rien, tout va bien. Eh bien ce rapport neutre à l'autre est pour l'instant supprimé. L'autre que l'on croise est à nos yeux engagé immédiatement dans une responsabilité envers nous tous. Dire cela semble un peu une belle formulation, un bel élan moral, mais ce n'est pas simplement ça. Se tient derrière cette pensée, hein, la pensée que l'autre est à nos yeux engagé immédiatement dans une responsabilité envers nous tous, il y a derrière cette pensée le fait que nous vivons tous les jours avec la notion du risque grave. Si ce n'est pas pour nous, parce que notre corps se défend bien, qu'on est en bonne santé, on va résister, ce risque grave, c'est nous qu'il ferions prendre à l'autre si on ne se protégeait pas. C'est comme ça en tout cas qu'on finit par le vivre. Prendre soin de notre corps, ne pas fumer, faire du sport, manger bio, aujourd'hui cela ne suffit plus pour nous rassurer. Certes, on peut encore se rassurer en faisant confiance à notre corps, comme je viens de le dire. Nous ne serions pas en grande difficulté si nous l'attrapions, la Covid, peut-être. Mais on ne peut pas se rassurer sur ce que l'on ne va pas faire à l'autre, si on ne porte pas un masque. On peut veiller sur son propre corps à soi, se rassurer comme cela. Mais on ne peut pas veiller sur le corps de l'autre que l'on croise dans la rue si on n'a pas de masque. Le confinement nous a appris que nous avions une responsabilité dans le maintien en vie du virus. Pendant le confinement, on nous a dit « si vous ne sortez pas, le virus ne se propage pas ». Il était peut-être dehors dans notre rue, mais s'il ne rencontrait pas de corps vivant, au bout de quelques minutes, il disparaissait, puisque maintenant on sait très bien la durée de vie en minutes du virus à l'air libre, sans personne vivante. Cette fois-ci, nous avons été et nous sommes encore responsables de la croissance de ce virus devant l'autre. Et la responsabilité dont je parle ici, elle n'est pas citoyenne, elle n'est pas collective seulement, elle est bien individuelle, personnelle. C'est chacun qui maintenant se sent responsable de porter un masque. Si le virus perdure quand il veut passer par quelqu'un, la perte de la santé, l'idée de la mort, elle ne peut pas être plus proche. C'est nous pris individuellement. La mort, c'est ce que nous pouvons transmettre à l'autre dans la rue et ce qu'il nous transmet si nous nous croisons tous les deux sans masque, tout simplement. Alors comment vivre avec ça? Ça semble quand même assez énorme. Je crois qu'on en est quand même là. Comment ne plus subir ce danger alors qu'on ne peut pas utiliser avec lui les mêmes solutions pour se rassurer que celles utilisées pour la grippe ou le cancer? On peut se rassurer sur l'état de résistance de notre corps, je l'ai dit plusieurs fois, on ne tombera pas malade, oui peut-être, mais on ne peut pas être sûr de la même chose concernant le corps de l'autre. Simplement parce que je me promène d'un lieu public à un autre, que je mets mes mains sur un lieu ou sur un autre, je peux mettre l'autre en danger. Si je ne désinfecte mes mains que chez moi. Il faut quand même se rendre compte qu'on vit avec ça tous les jours maintenant. C'est ce que traduisent les gens qui ont peur de mourir de la Covid, parce qu'il y en a encore beaucoup, et qui ne sont pas des gens spécialement âgés. Des gens qui paniquent en voyant quelqu'un sans masque. Et ces personnes-là, elles ont peut-être raison, je ne sais pas. Elles vont peut-être réellement tomber gravement malades si jamais elles l'attrapent, je ne sais pas. Leur dire que ça ira, c'est un peu juste. Quand on réalise que le risque d'une mort possible est étroitement lié aujourd'hui à la contagion. Le masque chirurgical dont je vous parlais tout à l'heure, donc celui qui protège les autres, mais pas celui qu'il porte, et le déconfinement, comme obligation de se re-rencontrer les uns les autres, sont peut-être deux éléments qui sont en train de nous rendre service, là aussi. Ces deux éléments nous fournissent une approche possible de l'autre à travers ce risque de mort que nous lui faisons peut-être prendre quand on ne se protège pas. Cette solution que nous donnent ces deux éléments, c'est l'obligation, hein, c'est comme ça que je l'appellerais cette solution, c'est l'obligation de protéger l'autre et pas simplement soi. Quand on veut se protéger soi seulement, en se désinfectant les mains par exemple, comme vous avez fait ce soir, on finit toujours par penser « allez, maintenant ça va aller ». On finit toujours par relativiser. Essayez d'y faire un petit peu attention quelques minutes dans les jours prochains. Mais quand on pense au risque que l'on fait prendre à l'autre, parce que l'on n'est pas obsédé par la Covid, comme on peut dire maintenant, alors là, on peut moins relativiser. On ne peut pas se dire « allez, le corps de l'autre, c'est sûr, il va résister ». On peut se dire « ça ne va pas me tuer, moi ». On ne peut pas dire « ça ne va pas tuer l'autre avec certitude ». Par contre, on peut éloigner le spectre, le fantôme du risque grave que l'on fait courir à l'autre en se disant « mais si je me désinfecte les mains pour tous les autres qui passeront derrière moi dans les lieux où je vais me rendre, ah, peut-être que ça, ça va les protéger ». L'obligation de penser à l'autre avant soi, c'est le changement que l'on peut peut-être opérer maintenant après le déconfinement. Puisque le déconfinement nous a appris deux choses. L'obligation de croiser le virus, parce qu'il résiste un peu à l'air pendant plusieurs minutes. Et deuxième chose que nous a appris le déconfinement, c'est le fait que nous sommes obligés de croiser l'autre. Grâce au confinement et au déconfinement, je crois que nous avons l'occasion concrète de vouloir faire les choses pour l'autre et pas simplement pour soi. Mais quand je protège l'autre, ce n'est pas pour autant que je vis bien la relation à l'autre. C'est le dernier point que je voudrais évoquer avec vous avant de passer la parole à Christelle. Ce dernier point, ce sont les malaises causés par le masque. Avec mon masque, je ne suis pas sûre, d'ailleurs on l'a retiré ce soir, avec notre masque, on n'est pas sûr que l'autre nous entende bien. Et c'est pour ça qu'on l'a retiré. On n'est pas sûr que l'autre m'entende bien. Entende bien ce que je viens de lui dire. Et moi-même, je ne suis pas sûre de la manière dont l'autre comprend, reçoit ce que je suis en train de lui dire quand j'ai le masque. Car lui, il a aussi son masque. Il a son masque, c'est-à-dire je ne vois pas sa réaction sur son visage quand je lui parle. Je ne peux pas vérifier qu'il m'a compris, car je ne peux pas voir son visage. Moi, est-ce que je l'ai bien compris? J'ai entendu ce qu'il m'a dit, j'ai entendu ses phrases, mais je n'ai pas vu son expression quand lui me parlait. Il n'a pas assez accès à moi, cet autre, quand j'ai mon masque, et je n'ai pas assez accès à lui quand il a son masque. Ça, c'est quelque chose, peut-être que vous y pensez, mais je l'ai entendu énormément dans la bouche des professionnels, mais je crois que vous l'avez tous vécu avec vos voisins et d'autres personnes. Moi, j'ai énormément entendu dans la bouche des infirmières et des gens qui accompagnent des familles en deuil, donc même des entreprises de matériel funéraire, qui sont venues en disant « mais on n'est pas sûr de se faire comprendre de l'autre et on doit accompagner l'autre. On n'est pas sûr qu'avec le masque, les intentions ou les envies de dire quelque chose passent bien. » On a un langage humain très riche, oral ou écrit. On utilise des mots qui peuvent signifier des idées abstraites. On a mémorisé des nuances dans notre langue française qui sont des nuances très variées, les professeurs de français pourront dire. Des tournures de phrases, des définitions nombreuses dans nos lectures. Et malgré tout, on a peur avec nos masques de ne pas être compris ou de ne pas comprendre l'autre. Le masque ne crée pas ce problème. C'est ça dont il faut bien être conscient. Le masque ne crée pas un vrai problème. Ce problème, nous l'avons déjà rencontré avec ce que nous appelons régulièrement la communication virtuelle. Je m'explique. Toute communication écrite, SMS, message Internet, nous l'appelons régulièrement communication virtuelle, comme si c'était une fausse communication, seulement parce que l'autre n'est pas devant nous. Cette certitude de la virtualité, cette certitude de la non-réalité de la communication, si elle est écrite, parce qu'il n'y a pas de tête-à-tête, elle a la vie dure. On la ressent toujours. Le masque, lui, il nous a fait comprendre que le souci n'est pas dans l'absence de face-à-face. Puisque nous sommes en face-à-face. C'est même grâce à eux qu'on peut en connaître. Il n'y a pas de virtualité avec le masque. En revanche, il y a quelque chose entre moi et l'autre. C'est pas grand-chose, le masque. Et d'ailleurs, on peut tous faire l'effort de le garder toute la journée. Mais on vient de le dire, c'est un effort. Et pas simplement pour les personnes claustrophobes. Quand nous portons le masque, on finit par se rendre compte que nous ne faisons pas assez confiance à l'autre pour nous comprendre. Seulement avec les mots que nous utilisons. Et Dieu sait pourtant que nos mots peuvent être riches. Et nous ne faisons pas assez confiance à l'autre pour s'exprimer, lui, seulement avec ses mots. Quand on a le masque, on ne voit plus les trois quarts du visage, et c'est là où on se rend compte qu'on ne fait pas confiance aux mots de l'autre. On n'a plus que les mots, et bizarrement, ça ne nous suffit pas toujours. On veut que l'autre voie notre visage, afin qu'il puisse bien cerner, au-delà de nos mots, ce que nous sommes en train de lui dire, notre intention. Et on regarde son visage pour le comprendre. Au-delà des mots qu'il utilise. On ne fait pas confiance à l'autre dans son choix des mots qu'il utilise pour parler de lui. On veut le comprendre seulement par nous-mêmes, en regardant son visage, en devinant. Alors que l'on devrait juste lui demander de se dire plus, de préciser avec plus de mots ce qu'il veut dire, plutôt que de scruter son visage. De même, on a peur que ce que l'on veut lui faire comprendre ne passe pas jusqu'à lui s'il n'y a pas nos mots, s'il n'y a que nos mots, pardon, et pas notre visage pour exprimer quelque chose devant lui. On parle souvent, dans beaucoup de situations, du manque de confiance en soi. Mais le manque de confiance en l'autre, je crois que ce n'est pas rien. Je crois que dans beaucoup de situations où l'on dit manquer de confiance en soi, si on creuse un petit peu, en fait, on manque de confiance en l'autre et le masque nous permet de nous en rendre compte. Ne comptez que sur les mots pour être entendu, à l'oral ou à l'écrit. Pour se faire comprendre et comprendre l'autre, c'est avant tout lui faire confiance à l'autre. Dans le fait qu'il peut réellement avoir l'envie de nous comprendre avec nos mots, et que cette envie le porte à nous comprendre réellement, qu'il peut réellement aussi bien choisir ses mots à lui pour s'exprimer, pour parler de lui. Il n'y a pas besoin de regarder son visage ou de le reconnaître. Le masque, donc, c'est une chance à saisir, je pense, pour essayer de croire un peu plus en l'autre, dans son choix de ses mots, dans sa compréhension à lui de nos mots quand on lui parle. Et compter peut-être un peu moins sur le visuel, un peu moins sur le visuel, c'est-à-dire un petit peu moins sur nous pour deviner de quoi il s'agit quand l'autre parle. Quand on passe par le visage de l'autre pour le comprendre, c'est volontairement qu'on ne s'en tient pas à ce qu'il dit. Malgré lui, on va aller au-delà de ce qu'il choisit de dire. Si on compte sur nous pour le comprendre, on ne compte pas sur lui. C'est très clair. Quand on compte sur notre visage pour être compris de l'autre, c'est pareil. On impose à l'autre ce que l'on veut lui faire comprendre. On impose notre expression, nos sourcils, etc. Comme si de lui-même, l'autre ne pouvait pas ou ne voulait pas nous comprendre. Donc on ne lui fait pas confiance. On peut se dire qu'avec le masque, on a l'occasion de devoir faire autrement. On peut essayer d'accorder à l'autre une vraie intention. On peut se dire qu'il fait un vrai effort pour nous comprendre quand on parle. Et on peut accorder à l'autre qu'il fait vraiment aussi attention à ce que nous sommes quand il fait l'effort de se faire comprendre par ses mots. Voilà, je vais m'arrêter là parce que je pense que j'ai peut-être été un peu vite, mais on n'avait que 30 minutes chacune. Donc je ne sais pas si vous avez besoin que je rappelle les 5 points, je peux le faire rapidement. Je pense que le confinement et le déconfinement nous ont rendu service. Si maintenant, donc je dirais à condition que maintenant, on essaye de se rassurer hein, sur les souvenirs que l'on a avec les autres, c'est-à-dire sur le fait qu'on est important pour les autres et ne pas toujours chercher à le vérifier en se voyant. Et je pense qu'on sera beaucoup plus rassuré de se rendre compte à quel point on est important pour les autres, même si on ne les voit pas. Le confinement et le déconfinement nous ont aussi rendu service si on accepte de prendre conscience qu'il y a une partie de nous, de ce que nous sommes, que nous ne pouvons pas expérimenter par la vie. Si on prend conscience qu'il y a toute une partie de ce que nous sommes, que nous ne pouvons expérimenter que par la vie en dehors de nos foyers. Ça, je pense qu'il faut aussi qu'on en ait conscience. Notre vie à domicile ne nous suffit pas dans notre équilibre. Prendre conscience des effets aussi que le confinement et le déconfinement nous permettent de garder à l'esprit les efforts constants d'adaptation que l'on consacre à la vie extérieure. Ces micro-violences dont j'ai parlé tout à l'heure, tout ce qu'on doit supporter. Et je pense que c'est important qu'on aborde la vie extérieure en y cherchant autre chose que des choses à supporter. Confinement et déconfinement nous rendent service aussi si, à partir de maintenant, on essaie de faire les gestes barrières pour les autres, et pas pour nous, et pas seulement contre le virus, mais pour les autres. Et dernier point, je pense que grâce au masque, on peut faire davantage confiance à l'autre en étant obligé de se contenter des mots qu'on utilise les uns et les autres.